Il est 7h sur Europe 1, bon réveil.
Sera-t-il capable, dans un an, de revenir jouer des matchs en 5-7 face à des joueurs qui auront 20 ans de moins que lui à Roland-Garros? Il faut nous le souhaiter. Hein. Après, je crois que c'est son corps qui le décidera.
Même le directeur de Roland-Garros s'interroge après son forfait hier. Reverra-t-on un jour Roger Federer sur la terre battue parisienne? Bientôt 40 ans, deux opérations du genou et un grand point d'interrogation sur la suite de sa carrière. L'abandon de Federer, vous nous direz ce que vous en pensez, Virginie Fulpin?
C'est un peu vexant de le voir déclarer forfait, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux le voir gagner à Wimbledon plutôt que de prendre le risque de le voir se blesser et abandonner à Roland-Garros?
Votre édito sport dans 20 minutes. Le pass sanitaire européen, outil de simplification pour les vacances, pas si sûr. Chaque pays va continuer à appliquer ses propres règles. Pour en finir avec les erreurs de casting dans le Doubs, une agence d'intérim mise sur la réalité virtuelle pour recruter ses salariés. Europe 1 a testé. Reportage à suivre. Et juste après le journal, l'éclairage éco de Nicolas Barré. Et votre regard international, Vincent Hervouette?
160 villageois massacrés par les djihadistes au Burkina Faso, la France est piégée au Sahel. Comment pourrait-elle se replier?
Stéphane Bern nous rejoindra aussi juste avant 7h30. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Marion Calais pour le journal. Bonjour Marion.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Tête d'affiche et jeune pousse au menu de ce lundi à Roland-Garros. Novak Djokovic et Rafael Nadal opposés à deux jeunes Italiens de 19 ans, Lorenzo Musetti et Jannik Sinner en 8e de finale. Un programme plein de promesses au lendemain d'une journée marquée par le forfait de Roger Federer.
Après un troisième tour qui a duré plus de 3 heures dans la nuit de samedi à dimanche, le Suisse, qui récupère de deux opérations du genou, a souhaité se préserver pour Wimbledon, Axel May.
Oui, depuis quelques années, Roger Federer ne fait plus de Roland-Garros une priorité. Il faut dire que c'est le tournoi du Grand Chelem qui a le moins réussi aux Suisses. Alors la question se pose, a-t-il joué ce week-end en session nocturne à huis clos, son dernier match porte d'Auteuil? L'ancien joueur Arnaud Di Pasquale ne veut pas y croire.
Un au revoir comme ça sans public, ça serait triste, non, ça serait dur. Donc on espère, on croise les doigts, revoir Roland-Garros l'année prochaine.
Directeur de Roland-Garros, Guy Forget reste très prudent.
Sera-t-il capable, dans un an, de revenir jouer des matchs en 5-7 face à des joueurs qui auront 20 ans de moins que lui à Roland-Garros? Il faut nous le souhaiter. Hein. Après, je crois que c'est son corps qui le décidera.
Ma conviction, c'est qu'on ne le reverra plus, avance pour sa part le joueur Nicolas Mahut, qui à quelques mois près a le même âge que Roger Federer. Il s'est fait opérer du genou, explique Mahut, ça va devenir très contraignant physiquement. En fait, une petite musique se fait entendre avec insistance dans le milieu du tennis. Federer viserait un dernier Wimbledon, puis les Jeux, avant de ranger ses raquettes pour de bon.
Tournée aussi vers Wimbledon, l'américaine Serena Williams, éliminée hier en 8e de finale. Quant à savoir si c'était son dernier Roland, à bientôt 40 ans, celle qui a remporté 23 titres du Grand Chelem a assuré ne pas penser à ça.
Ça, en revanche, on y pense tous, les prochaines vacances qui seront peut-être un peu plus compliqué que prévu si vous avez choisi un pays européen comme destination.
Alors certes, il y a le pass sanitaire européen qui doit être adopté par les eurodéputés cette semaine, mais il ne réglera pas tout. Et si vous avez donc prévu de voyager au sein de l'Union européenne cet été, un conseil, écoutez bien ce qui va suivre.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
On vous retrouve en direct depuis Bruxelles, spécialiste des affaires européennes pour Europe 1. Bien sûr, pass sanitaire ne veut pas dire harmonisation des règles. Attention, les règles pourront être différentes dans les différents pays.
Et non, c'est paradoxal parce que tous les Européens vont avoir le même certificat numérique sur leur téléphone. Il dira s'ils sont vaccinés, guéris ou testés. Les 27 se sont mis d'accord sur cet outil technique en un temps record. Mais pour les droits qu'ils donnent, alors là, c'est une autre affaire. La santé reste une compétence nationale. La Commission européenne recommande les mêmes critères partout, mais ce ne sont que des recommandations. Les capitales, elles, promettent de se coordonner, mais elles font ce qu'elles veulent. Ainsi, les personnes guéries devront passer un test. Pour entrer en France, Bruxelles recommande que non. Les enfants devront être testés seulement à partir de 11 ans. Bruxelles recommande 6 ans. Et puis en Belgique, seuls les tests PCR sont reconnus, pas les antigéniques. En Allemagne, le risque d'une quarantaine plane sur ceux qui viennent d'une zone à forte circulation du virus, etc., etc. Bref, un conseil avant de partir, même avec votre certificat sanitaire en poche, vérifiez précisément les conditions de votre pays de destination.
Voilà, ça c'est bien noté, explication d'Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe.
L'actualité politique et Jean-Luc Mélenchon accusé de complotisme et de démagogie. Hier, le leader de la France insoumise assurait qu'un grave incident ferait basculer la prochaine présidentielle.
Comme ça a été le cas selon lui en 2012, 2017 ou 2002, propos tenus hier à la mi-journée chez nos confrères de France Inter.
Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça, c'était la dernière semaine. Mmh. Avant, on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu parler avant, après. Donc, tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà.
Réduire les atrocités des attentats de 2012 à de la machination électorale, inacceptable, assure la socialiste Valérie Rabault. On est au-delà de la honte pour la députée En Marche, Aurore Berger.
On y reviendra tout à l'heure avec Nicolas Bétou à 8h10. Et au-delà de la classe politique, indignation aussi dans les rangs de l'Association française des victimes de terrorisme. Écoutez Guillaume de Saint-Marc, qui en est le directeur.
Entendre, ce serait de faux attentats ou des attentats organisés par des candidats aux élections. Enfin, on est dans un délire qui nie toute réalité. Bien sûr que tout est fait pour éviter les attentats. Donc c'est quelque chose qui est choquant, qui est une insulte aux victimes, qui est une insulte aux forces de l'ordre. On parle d'un drame qui vise la société dans son entier. Le fait qu'on le banalise pour en faire un outil politique, c'est odieux.
Le directeur de l'Association française des victimes de terrorisme, joint par Marion Gauthier pour Europe 1.
Il est 7h07 sur Europe 1. Direction à présent Ornans, dans le Doubs, où une agence d'intérim utilise désormais la réalité virtuelle pour une partie de ses recrutements.
Oui, objectif, confronter les candidats à l'embauche au sein d'une usine locale d'emballage alimentaire à leurs futures conditions de travail. Et pour ça, il faut enfiler un casque de réalité virtuelle que vous avez testé, Arthur Mbaché.
Oui, ça se passe dans les locaux de l'agence d'intérim Temporis, ici à Ornans, qui cherche des ouvriers pour l'usine d'à côté et qui veut en finir avec les erreurs de casting. Alors, immersion virtuelle pour les candidats, j'ai testé avec un de ces fameux casques de réalité virtuelle.
Donc votre poste de travail se trouve donc sur votre gauche.
Ok, là je suis au bon endroit.
Voilà. Vous avez un petit bouton derrière également, une petite gâchette. Ouais. Donc ça servira pour saisir les objets. Ok, cette fois-ci vous allez attraper le carton. Hop. Je vais vous redéplacer parce que vous êtes parti un petit peu loin.
Et oui, une agence d'intérim, c'est moins vaste qu'un atelier d'usine, comme chez Guilin Emballage ou Lionel de Chalin dirige les ressources humaines.
L'industrie, c'est particulier en termes de conditions de travail, en termes de bruit. Il y a les machines, il y a des cadences. Ça peut arriver que les gens se disent, finalement, c'est pas pour moi. Et le but, c'est de réduire ces erreurs de casting.
Le logiciel de réalité virtuelle a été conçu par Ali Soumaré.
On a allé sur place dans l'usine, on a pris des photos, quelques références de mesures.
Vous avez même mis des faux collègues qui discutent comme dans un vrai jeu vidéo.
Qui discutent et qui travaillent. Donc ça permet vraiment toujours de renforcer l'immersion.
Et ça semble efficace depuis que cette première en France est en place. Depuis 4 mois, le taux de turnover des intérimaires a été divisé par 2.
Arthur Mbaché à Ornans, dans le Doubs pour Europe 1.
11 pays. 11 villes pour un mois de compétition. Le coup d'envoi vendredi de l'Euro de football. Vous serez l'un de nos envoyés spéciaux. Simon Rubin, bonjour.
Bonjour.
On va se projeter avec vous un peu sur l'organisation de cet Euro, sur les forces en présence aussi. D'abord, soyons clairs. Nos bleus, ils arrivent en favoris.
Ah, si on se fie aux bookmakers, oui. Si on se fie au niveau des joueurs, à leur expérience en tant que collectif, oui. Et puis, vous avez entendu Michel Platini dans le journal de 6h30 pour qui les bleus arrivent largement favoris. Alors attention quand même à l'Angleterre, à l'Allemagne, à l'Espagne, à la Belgique, qui auront sans doute leur mot à dire, sans parler du Portugal, champion en titre. Et puis, la France devra démarrer pied au plancher, ce qui n'est pas toujours son fort. Les bleus vont débuter face à l'Allemagne le 15 juin, enchaîner 4 jours plus tard avec la Hongrie, puis le Portugal. Autant dire qu'il faudrait être tout de suite à 100%. Et on se souvient qu'au dernier mondial, les premiers matchs avaient été poussifs. Le danger, il est là en partie.
Et au-delà de l'aspect sportif, Simon, il y a le contexte sanitaire, évidemment. Des milliers de spectateurs dans les stades qui voyagent de l'Azerbaïdjan à l'Angleterre. C'est un risque ?
Oui, même en extérieur, le risque de propagation du virus existe, surtout avec une forte concentration de personnes dans un stade. C'est l'avis de Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
La particularité de ces événements sportifs internationaux, c'est justement un brassage des populations et donc des variants. Clairement, ce qu'on sait, c'est que si on n'est pas masqué, qu'il y a des situations où on a envie, dans un moment d'émotion, de se retrouver, de s'embrasser, de s'accoler. On crie, on chante, il y a des chants de supporters. Tout ceci fait, et on le sait, la transmission du virus, elle est plus importante selon le nombre de décibels et selon la durée du contact. Et donc, encore une fois, même si on a 20 fois moins de risque de se contaminer en extérieur qu'en intérieur, le risque existe, il est juste minoré.
Chaque stade aura donc une jauge, en général pour accueillir 15, 20 000 personnes. Mais à Budapest, par exemple, le stade sera plein, plus de 67 000 personnes attendues. Et ça, c'est le résultat des pressions de l'UEFA, qui a menacé les villes hôtes qui refuseraient du public de les exclure de l'organisation. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Bilbao, remplacé par Séville, ou encore pour Dublin, qui a refusé d'accueillir du monde et dont les matchs ont été déplacés, délocalisés à Saint-Pétersbourg.
Et ce stade plein à Budapest, vous l'expérimenterez pour nous, Simon. Simon Rubin, vous nous raconterez, on va le vivre avec vous, 7 euros, tout le service des sports d'Europe 1, les matchs des Bleus en intégralité et tous les soirs 20h-23h30, Lionel Rosso avec tous nos consultants.
Et dès ce matin, Didier Deschamps est sur Europe 1 tout à l'heure à 7h40 dans le tête-à-tête. Didier Deschamps qui a reçu Europe 1 à Clairefontaine, il se confie sur la préparation des Bleus, sur sa relation avec Karim Benzema aussi. C'était le journal de Marion Calais, il est 7h10.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
À suivre votre éclairage éco, Nicolas Barré.
Et contrairement aux idées reçues, la France est le pays en Europe qui attire le plus d'investissements étrangers. Explication dans un instant.
Et le regard de Vincent Hervouet, le regard international. A tout de suite, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h13, j'accueille Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sébastien.
Directeur de la rédaction des Échos. Votre éclairage Échos, on va commencer la semaine avec une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, malgré l'année de crise que nous avons vécue, la France reste attractive. C'est même le pays qui attire le plus de projets d'investissement en Europe.
Oui, alors bien sûr, l'an dernier, avec la crise, il y a eu un peu moins de nouveaux projets de création d'usines et d'implantation de nouvelles unités de production. Mais malgré tout, près de 1000 décisions d'investissement étrangers sur notre territoire ont été recensées par le cabinet EY, qui regarde ces projets chaque année dans chaque pays européen. La France reste en tête en Europe, tout juste devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. C'était déjà le cas l'année précédente. Notre pays détient la palme de l'attractivité en Europe.
Et c'est toujours bon de le rappeler. Ces investissements étrangers en France, c'est aussi beaucoup d'emplois.
En effet, un peu plus de 30 000 emplois. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que la perception de la France par les investisseurs étrangers change. Nous avons toujours nos handicaps habituels, le droit du travail sans doute le plus compliqué du monde, des impôts élevés, des règles administratives souvent ubuesques. Mais en même temps, eh bien, la France a gagné une image davantage, je dirais, pro-business grâce à des mesures telles que la réduction de l'impôt de production, enfin des impôts de production, la réduction de l'impôt sur les sociétés, la réforme de l'ISF et les ordonnances sur le travail. Et à la longue, eh bien, ça paye. La preuve, 60% des nouveaux projets d'investissement proviennent d'entreprises déjà présentes en France et qui constatent ces changements.
Un bémol quand même, cela reste difficile d'attirer des activités à forte valeur ajoutée.
Alors c'est vrai, c'est le point noir. Nous manquons de grands centres de recherche et de développement d'entreprises étrangères, malgré le crédit impôt recherche qui est censé favoriser ce type d'activité. Par ailleurs, les nouveaux investissements étrangers se trouvent davantage dans les services que dans l'industrie, alors que la priorité du gouvernement, c'est la réindustrialisation, donc ça reste un point noir. Mais nous revenons de loin. Il y a 5 ans, le Royaume-Uni attirait 2 fois plus de projets d'investissement que la France. Aujourd'hui, nous sommes légèrement devant et ça n'est pas uniquement à cause de l'effet Brexit.
Et on va retenir ça, la France devant le Royaume-Uni et l'Allemagne qui détient la France qui détient la palme de l'attractivité en Europe. L'éclairage éco, signé Nicolas Barré. Merci. À demain, il est 7h15. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour, ça va ?
C'est à vous, très bien, merci. C'est à vous pour votre regard international. Ce matin, vous revenez sur cet atroce massacre. 160 morts, dernier bilan, donné après l'attaque menée ce week-end par des djihadistes dans un village du nord du Burkina Faso.
Oui, le plus stupéfiant dans le massacre de Solan, ce n'est pas que les assaillants aient taillé en pièces les hommes, les femmes et les enfants. L'histoire de ce recoin d'Afrique est marquée par les razzias. Quand ce ne sont pas les Touaregs du nord, ce sont les Peuls au sud. Et le djihad a donné des habits neufs à ces colonnes infernales. Le détail qui s'avère essentiel, c'est que les 200 tueurs à moto sont revenus le soir même du massacre. Entre-temps, les habitants avaient ramassé les corps, les triporteurs servant de corbillard, l'armée burkinabé a débarqué, elle a compté 3 fosses communes, 160 cadavres, 20 enfants... J'espère qu'on les a mis avec leurs parents. Record terrible, record battu. Puis les galonnés sont remontés dans l'hélicoptère. Les troufions se sont repliés dans leur caserne à 15 km de là. Les civils ont rejoint le million de déplacés et ils sont partis en faisant attention où ils mettaient les pieds. Une charrette a sauté sur des explosifs posés par les djihadistes.
Mais ils ont eu raison de s'enfuir.
Oui, car à 22h, les djihadistes étaient de retour. Ils sont restés jusqu'à l'aube à Solan. Il restait des biens à piller, des maisons à incendier, des soldats aussi à harceler, retranchés dans leur fortin à 15 km. Et personne ne les a dérangés. Pas de force spéciale, pas un hélico, pas un drone. Le retour sur les lieux de son crime démontre l'impunité de l'assassin. Il est en terrain conquis, la zone des 3 frontières est son sanctuaire. L'armée burkinabé est une armée de papier, ses supplétifs sont des cibles. L'État n'existe plus, le gouvernement n'est rien, c'est QFD.
Vincent, 3 jours de deuil national sont décrétés. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, se rendra cette semaine au Burkina pour exprimer la solidarité de la France.
Oui, peut-être qu'il amènera une couronne mortuaire. Sans doute qu'il verra le président Caboret réélu il y a 2 ans en jurant de ramener la paix dans le pays. Promesse d'ivrogne. Le Drian lui dira « Je suis Solane », comme on disait il y a 6 ans, « Je suis Charlie ». Mais on voit mal le ministre expliquer au président burkinabé que Barkhane va abandonner le Mali à son sort et le Sahel avec, parce qu'un colonel putschiste y est intronisé dans 2 heures président de transition et que la France exige la démocratisation, sinon elle s'en va. Avec le carnage de Solane, le djihad progresse, le piège s'est refermé sur la France.
Le regard international, signé Vincent Hervouet sur Europe 1, 7h17. Reverra-t-on un jour Roger Federer à Roland-Garros? Le Suisse abandonne pour se concentrer sur Wimbledon. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin à suivre. À suivre également votre expression du jour, Stéphane Bern.
Oui, si je vous parle encore et encore de Harry et Meghan, et si je vous rebats les oreilles, vous allez me dire, vous m'envoyez paître. Mais d'où vient cette expression, envoyer paître quelqu'un?
À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Il est 7h20 et c'est l'heure de l'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On en parlait dans le journal de 7h, Roger Federer a donc jeté l'éponge. Il ne disputera pas son 8e de finale à Roland-Garros. Le Suisse préfère déclarer forfait pour ne pas prendre de risques physiques et prendre un peu de recul avant Wimbledon. On est forcément déçu, voire en colère, manque de respect envers Roland-Garros. Pas pour vous Virginie, pour vous il ne faut pas lui en vouloir.
La première réaction, évidemment, c'est la déception. On a toujours envie de voir un match de plus de Roger Federer. Donc s'il a disputé le dernier de sa carrière à Roland-Garros samedi soir dans l'atmosphère glaciale d'un central à huis clos, bien sûr qu'on a un petit pincement au cœur. Ça ne devrait pas se finir comme ça, surtout que ce match, il l'a gagné après une lutte épique de plus de 3h30. Si c'était pour jeter l'éponge après, à quoi bon? Là encore, je comprends que ça fasse grincer quelques dents. Roger Federer explique qu'à 40 ans, après des opérations aux deux genoux et une longue absence du circuit, il est heureux de s'être prouvé qu'il pouvait enchaîner 3 matchs victorieux, mais qu'il doit préserver son corps avant Wimbledon. Quand on est français, c'est le genre de phrase qui agace. Roland-Garros n'est pas un petit tournoi d'entraînement pour préparer le grand chelem londonien, s'il vous plaît. Donc oui, soyons honnêtes, ce forfait n'illustre pas la classe absolue dont Roger Federer s'est fait l'incarnation pendant tant d'années.
Bon, ok, ça manque de classe, mais ça reste compréhensible.
Si on se met à la place de Roger Federer, sa décision est très logique. Il n'était pas venu à Roland-Garros pour gagner le tournoi, ça on le savait d'avance. L'objectif ultime de sa probable dernière saison sur le circuit, c'est de briller à Wimbledon, son jardin, le temple qui l'a fait roi. Et s'il dédaignait le grand chelem français, il aurait très bien pu choisir de ne pas venir du tout et de se focaliser sur sa préparation sur herbe. Mais il est venu, sans doute pour son dernier tour de piste sur terre battue. Et quand on a son palmarès, son aura, son ego de champion aussi, on peut comprendre qu'il préfère finir par une victoire arrachée de haute lutte que sur une défaite quasi inéluctable aujourd'hui avec un corps qui n'avance plus. Je vais dire quelque chose de très inégalitaire, mais tant pis, j'assume. On peut pardonner à Roger Federer une attitude qu'on n'accepterait pas chez les autres, justement parce que c'est Roger Federer et qu'il a tant apporté au tennis qu'on peut accepter qu'il fasse des choix à l'aube de ses 40 ans. Même si ce sont des choix contestables, allez, on ravale notre orgueil de Français vexé par ce forfait. C'est dur, mais on peut essayer. Moi, je préfère voir Federer finir sa carrière sur une victoire à Wimbledon plutôt que sur une blessure et un abandon en 8e de finale de Roland-Garros.
Et bien voilà, on patientera et on le suivra, Roger Federer à Wimbledon. En attendant, Europe 1 et radio officielle de Roland-Garros. Et le journal de Roland-Garros, ce sera juste après le journal de 8h. Merci à vous, Virginie Fulpin. 7h23, on retrouve Stéphane Bern pour notre petit moment d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Quand un quidam vous contrarie, ou quand un lourdeau vient vous chercher des noises, il y a une tentation bien naturelle, c'est l'envoyer paître. Voilà une jolie expression sur laquelle je vous propose de nous pencher ce matin.
Alors, envoyer paître quelqu'un, effectivement, ça lui dire de façon plus ou moins polie qu'il nous dérange. Paître, dites-moi, il y a un rapport avec l'animal qui va paître dans les prés?
Absolument, mais pas seulement. Paître, c'est effectivement manger en broutant de l'herbe dans une pâture. Bon, on devrait tous faire cette expérience un jour, vous verrez, ça détend. C'est donc l'équivalent de pâturer. Le verbe a également donné repaître, dont est issu repu, quand on est repu. Envoyer paître, c'est donc demander à quelqu'un de s'éloigner loin, mais c'est aussi en matière religieuse, trouver sa spiritualité. On disait au XIIIe siècle que le curé paissait ses fidèles, mais paître pouvait également vouloir dire tromper. On disait alors faire paître. Au XVe siècle, l'expression prend son sens actuel. On disait aussi envoyer à Dash, Dash étant le diable, et envoyer au plot. La plot est à prendre au sens du peloton. C'est dans l'armée ceux qui étaient de corvée. Aujourd'hui, et à l'étranger, de nombreuses expressions cohabitent. Aux États-Unis, c'est « send someone's packing ». On envoie quelqu'un faire sa valise. En Espagne, c'est « mandar a freír espargos ». On envoie quelqu'un faire frire des asperges. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon, et surtout, ça prend du temps. Et quant au portugais, c'est « mandar lamber sabão ». Demander à quelqu'un de lécher du savon, rien de bien engageant. Allez, terminons sur une remarque de bon sens. Elle est de notre ami Coluche. Ça vaut le coup de se fâcher avec quelqu'un que si on le voit tous les jours. Se fâcher avec quelqu'un qu'on voit une fois par an, on n'en profite pas.
Stéphane, on vous retrouve à 16h avec Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre.
Oui, absolument, Sébastien. Aujourd'hui, on réunit le violoniste Niccolo Paganini, Robert Johnson, le bluesman, qui dans les années 30 avait une maîtrise surnaturelle de la guitare, et le gothique le plus célèbre au monde, Marilyn Manson. Alors, vous me direz, leur point commun, ils ont le diable au corps. Ah. Ils sont habités par le démon.
16h, 18h, historiquement vôtre, ça va donner. À tout à l'heure, Stéphane Bern, 7h25. À suivre, la météo Laurent Cabrol et le journal de Sophie Echen. Europe 1. 7h28, la météo Laurent Cabrol, quand est-ce qu'on envoie paître définitivement ces orages?
Eh ben, je vois que ça vous laisse bousber quand même. Oh là. On les a envoyés paître dès aujourd'hui sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la Bourgogne, l'Auvergne. Ils sont encore présents, et ainsi que sur la vallée du Rhône. C'est une matinée encore calme, mais ils vont revenir dans l'après-midi. Et cet après-midi, ce sera pratiquement la dernière. Il y aura encore un petit peu demain sur les massifs montagneux. Mais vraiment, c'est la fin de cette zone orageuse et le début d'un temps sec, ensoleillé et de plus en plus chaud. Ce sera donc une belle semaine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, et puis c'est tout se confirme. Sur la Manche, nous avions quelques brouillards, ils commencent déjà à se disperser. En Méditerranée, il y a un petit peu de vent sur le Languedoc et le Roussillon. Et puis sur le Nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne, la vallée de la Loire, le Poitou-Charentes, tout le Sud-Ouest, la région parisienne, nous aurons un temps ensoleillé, ensoleillé et agréable. Hein, 21 à Caen, 23 à Dijon, 24 à Lille, 26 à Paris et 27 à Marseille.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Merci de votre fidélité à Europe 1. Tout de suite, un nouveau journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Presque 7h30.
Depuis 2013, on dit que la possibilité de faire une PMA va être réelle. 8 ans après, on en est plus ou moins au même stade. En fait, on a l'impression qu'on a les mêmes devoirs que les autres et pas les mêmes droits. On a vraiment la sensation d'être traitées comme des sous-citoyennes.
Et autant dire que l'attente est grande pour les couples de femmes ou les femmes célibataires. Dernière ligne droite pour la PMA pour toutes. Le texte est de retour aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Dans ce journal, l'optimisme du ministre Bruno Le Maire sur la reprise économique. L'ouverture du procès de l'assassinat de Xavier Jugelé, le policier tué par un terroriste sur les Champs-Élysées il y a 4 ans. Et puis nous irons dans les étoiles avec le nouveau télescope spatial le plus grand jamais lancé dans l'espace. Il nous permettra de remonter le temps.
Juste après le journal, Bertrand Chameroy et son regard décalé sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps à 4 jours de l'Euro et l'édito politique avec vous Nicolas Bétou.
Jean-Luc Mélenchon annonce qu'une guerre civile va être inventée avant la présidentielle de 2022. Le voilà qui sombre dans le complotisme.
Enfin, juste avant 8h, Nicolas Canteloup conseillera à sa façon l'invité politique de la matinale, Michel Barnier, l'ancien négociateur européen du Brexit.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était l'une des promesses emblématiques de la campagne d'Emmanuel Macron, mais à moins d'un an de la fin de son quinquennat, la loi sur la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, n'est toujours pas adoptée. Cet après-midi, les députés entameront la troisième lecture du texte. En attendant, des milliers de femmes continuent d'aller à l'étranger pour réaliser cette PMA. C'est le cas par exemple de Marion, mariée à une femme. Elle est partie en Espagne il y a quelques mois pour une fécondation in vitro.
Je vais avoir 35 ans au moment de l'accouchement. On peut pas se permettre d'attendre parce que petit à petit, mon corps va être de moins en moins efficace dans la procréation. Ça rajoute de la pression sur ce projet qui en fait une urgence au final. C'est quelque chose qu'on considère qu'on devrait avoir le droit de faire en France. Et puis, pour plein de raisons, ça aurait été beaucoup plus simple de le faire en France, financièrement déjà, parce que là, on fait face aux dépenses de parents qui attendent des jumeaux en ayant déjà dépensé 13 000 euros pour obtenir cette grossesse. C'est quand même pas négligeable. Il y a le côté pratique aussi. À chaque fois, on a dû passer les frontières un peu comme des voleuses. Le mariage est possible depuis 2013 et depuis ce moment-là, on nous dit que la possibilité de faire une PMA va être réelle. 8 ans après, on en est plus ou moins au même stade quand même. En fait, on a l'impression qu'on a les mêmes devoirs que les autres et pas les mêmes droits. On a vraiment la sensation d'être traitées comme des sous-citoyennes. De notre côté, ça développe une grosse rancœur par rapport à notre pays. Il est temps que ça avance.
Un témoignage recueilli par Victor Delande. La majorité présidentielle espère une promulgation du texte avant l'été.
On se rapproche petit à petit d'un retour à à la vie normale avec la réouverture mercredi de l'intérieur des bars et des restaurants.
Et le couvre-feu sera repoussé, lui, à 23h. Nouvelle étape du déconfinement qui marque également la reprise économique du pays. Et à ce propos, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se montre confiant.
L'économie française redémarre déjà. On le voit dans les chiffres de consommation. Ils étaient, dans la première semaine, 20% supérieurs à la même période de 2019. Il y a eu un effet boost du redémarrage. Aujourd'hui, dans la semaine du 24 au 30 mai, les dépenses par carte bleue sont supérieures de 15% à ce qu'elles étaient dans la période 2019. Et pourquoi je suis confiant sur le fait qu'il y aura peu de faillites ou que nous arriverons à les maîtriser ? Il y en aura, bien entendu, parce que nous avons mis en place des dispositifs d'accompagnement des secteurs les plus fragilisés qui doivent nous permettre d'éviter cette vague de faillite.
Bruno Le Maire, invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, a noté que pour la deuxième année consécutive, la France reste le pays le plus attractif d'Europe sur le plan économique. Selon le bilan annuel du baromètre EY, on en parle dans le journal de 8h de François Geffrier.
C'était il y a 4 ans, juste avant l'élection présidentielle. Le policier Xavier Jugelet était assassiné sur les Champs-Élysées.
Tué par balle par un terroriste, lui-même abattu par la police. 4 hommes suspectés d'avoir fourni les armes sont jugés aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Les victimes et leurs familles ne feront donc pas face aux tireurs, mais leur avocat, Thibaut de Montbrial, ne veut surtout pas minimiser la portée de ce procès.
L'attentat des Champs-Élysées, il a été marquant parce que c'était une attaque qui a eu lieu sur l'un des lieux emblématiques de Paris et de la France, parce qu'il a frappé des policiers, parce qu'il a eu lieu 3 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2017 dans un contexte de tension terroriste extrême. Il y avait eu un gros projet d'attentat qui avait été déjoué 2 jours avant à Marseille. Donc ce qui est important, c'est que par ce procès criminel, la société marque la gravité de ce qui est arrivé ce soir à Xavier Jugelet et à ses camarades. Et puis un attentat, ce n'est pas simplement l'œuvre d'un ou plusieurs opérateurs, c'est également une entreprise qui n'aurait pas pu prospérer si l'individu avait été tout seul. En l'occurrence, l'enquête a permis d'établir le circuit qui lui a permis d'acheter la Kalachnikov. Et ce seront donc les chaînes de responsabilité qui seront jugées.
Maître Thibaut de Montbrial avec Justin Morin pour Europe 1. À l'étranger, la tension monte en Israël après l'annonce la semaine dernière d'un gouvernement de coalition destiné à évincer Benjamin Netanyahou. Ce dernier est accusé d'intimidation et d'incitation à la violence. Ces derniers jours, ses soutiens ont organisé des rassemblements devant les domiciles de plusieurs membres potentiels de ce nouveau gouvernement.
Il est 7h35. Connaissez-vous James Webb ? C'est le nom du plus gros télescope spatial jamais construit qui devrait bousculer notre connaissance de l'univers.
Il sera mis en orbite d'ici la fin de l'année et succédera au télescope Hubble qui nous fournissait déjà des clichés à couper le souffle. James Webb permettra d'observer l'univers lointain avec une précision inégalée lors d'Autriche.
Oui, c'est une machine à remonter le temps. Ce télescope avec sa vision infrarouge pourra observer le cosmos lointain, là où se sont formées les premières galaxies il y a 13 milliards d'années. Équipé d'un immense miroir doré, le télescope pourra analyser la lumière émise aussi juste après le Big Bang. Ce télescope aurait dû être lancé il y a une quinzaine d'années, mais il est tellement complexe qu'il y a eu des retards dans la fabrication. Pierre Ferruy, à l'Agence spatiale européenne, parle d'une prouesse technologique.
On ne réalise sa taille que le jour où on se trouve, on le voit pour de vrai. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'un satellite qui soit aussi gros, son pare-soleil, à la taille d'un terrain de tennis. Et on va envoyer tout ça dans l'espace.
Le télescope sera envoyé plié dans l'espace. Il mettra ensuite 3 semaines à se déployer intégralement. Il sera en orbite autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et il fonctionnera pendant au moins 10 ans.
Une mission hors norme donc, et qui permettra de découvrir peut-être des planètes potentiellement habitables.
À 7h36 sur Europe 1, c'était le journal de Sophie Echène.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Pendant près de 5 ans, il fut le négociateur de l'Union européenne en charge d'un casse-tête. Le Brexit, aujourd'hui, Michel Barnier veut peser en France. Certains le voient même présidentiable. Il publie un livre, La Grande Illusion, chez Gallimard. Michel Barnier sera face à Sonia Mabrouk à 8h15. D'abord, nous allons à Clairefontaine. À 4 jours du top départ de l'Euro de foot, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a accordé un entretien à Europe 1, le tête-à-tête. À suivre, juste après la touche âme. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Sébastien, je vous le signe, la France va tout rafler au JO en aviron. On a les meilleurs athlètes.
Si vous le dites. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Et à 7h40 sur Europe 1, c'est la touche âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Sébastien, dans 46 jours débutent les JO de Tokyo. Je pense que si la France veut décrocher l'or en aviron, elle doit envoyer ses meilleurs athlètes. Jean-Luc Mélenchon, Julien Odoul et Marine Le Pen. Ils sont surentraînés. Ah, ce week-end, ils nous ont offert une de ces démonstrations. Ils ont ramé d'une force, mais d'une force, ils doivent avoir des bras comme ça aujourd'hui. Tu mets les trois dans un aviron, ils foncent à 70, même avec le vent de face. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces justifications qu'ils nous ont pondues ? Même les marmottes avec le papier d'alu, elles n'auraient pas osé. Non, chez Milka, il serait élu employé du mois direct. D'un côté donc, Jean-Luc Mélenchon, qui pour tenter d'éteindre l'incendie provoqué par sa théorie du complot du grave incident de la dernière semaine de campagne présidentielle qui serait écrite d'avance, a invoqué les complotistes anti-complotistes. Le complot de complot, là ça devient très technique, c'est fantastique, c'est tellement conceptuel comme tentative d'explication qu'elle aurait toute sa place à la FIAC. Et oui, Sébastien, n'oubliez pas, quand on vous tombe dessus parce que vous avez dit une grosse connerie indécente, surtout ne jamais présenter d'excuses ou de reconnaître ses torts. Non, accusez les autres de ne pas avoir compris ce que vous vouliez dire, pensez-y. Autre polémique du week-end, les propos du RN Julien Odoul qui a ironisé sur la pendaison d'un agriculteur, propos qu'il nie avoir tenu, manque de bol, Libération en avait la preuve sonore. Alors là, normalement, tu te dis que t'es grillé, mais non. Là encore, ce sont les autres qui ont mal compris. Marine Le Pen a expliqué qu'il ne parlait pas du tout du suicide des agriculteurs, mais du loup et des défenseurs des loups, évidemment. Les pendaisons de loups, un fléau dont on ne parle que trop peu dans les médias. Non mais vraiment, c'est moi, on nous prend pour des abrutis. Ce week-end, c'était un festival. On était à deux doigts du « Non, mais non, c'est mon chien qui a mangé mon devoir ». Je pense qu'il faudrait vraiment faire des pauses sur les interviews politiques du dimanche. Quand on voit celle d'hier, c'était un concours. Vraiment, amis politiques, profitez de vos week-ends pour faire autre chose. Offrez-vous une bonne grasse mat, allez bruncher, faites des puzzles, une rando, je sais pas, mais levez le pied sur les interviews. On est à un an de la présidentielle. Il reste un an. Je sais pas comment ils vont tenir le rythme. Heureusement, ce week-end, on a aussi eu de bonnes nouvelles. La naissance de la fille de Meghan Markle et du prince Harry. Oui. La reine et la famille royale se sont dit ravi dans un communiqué aussi chaleureux qu'un petit un paquet de petits pois picards. Prénom du bébé, Lilibet Diana. Double hommage à la grand-mère, la reine Elisabeth II, et à Lady Di. Bienvenue donc à Lilibet Diana et bonne séance de psy dans le futur, hein, parce qu'en entendant le prénom, Freud a fait un saut carpé triple loot spiqué dans sa tombe. Allez, bonne journée Sébastien.
Bonne journée. C'est mon chien qui a mangé mon devoir, c'était vraiment une... le prétexte avec
Je l'ai déjà tenté, sans succès, mais je l'ai tenté.
Bertrand Chameroy à la Toucham, chaque matin sur Europe 1, 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Et c'est la dernière ligne droite pour les champions du monde. Le dernier match de préparation des Bleus demain face à la Bulgarie. Ensuite, rendez-vous avec l'Allemagne. L'Euro de foot débute dans 4 jours. Et ce matin, le sélectionneur de l'équipe de France est sur Europe 1. Didier Deschamps a reçu à Clairefontaine le chef du service des sports d'Europe 1, Jean-François Pérès. Les objectifs des Bleus, sa relation avec Karim Benzema. Didier Deschamps se confie.
Le tête-à-tête.
Bonjour Didier Deschamps.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vendredi, l'Euro débute en Italie. Pour l'équipe de France, ce sera dans 8 jours en Allemagne. Les champions du monde en titre sont-ils forcément les favoris du championnat d'Europe ?
Belle question. Probablement. Logiquement. C'est le statut qui veut ça aussi, ou favori ou candidat à ce titre de champion d'Europe. On ne va pas lutter contre ça et on a envie de ça. C'est notre ambition. Notre objectif, même s'il y aura des étapes à passer avant de se voir à Wembley.
Didier, avez-vous été surpris de l'immense retentissement médiatique du retour de Karim Benzema ? Est-ce que vous attendiez à quelque chose qui dépasse largement le cadre du football, finalement ?
À un moment, le football prend tellement de place parce que c'est le sport populaire, donc tout le monde peut être amené à donner son avis quand ça concerne l'équipe de France. Évidemment que je savais très bien en prenant cette décision que ça allait faire du bruit. Donc je m'en suis rendu compte juste après. Mais bon, depuis que je suis ici avec mes joueurs, je suis en autarcie. Donc tout ce qui se passe à l'extérieur, j'imagine, parce qu'à travers les contacts que j'ai avec vous, les médias, c'est une question qui revient systématiquement, voire plusieurs questions. Donc bon... Mais je n'ai pas de souci avec ça, bien au contraire.
Alors, il y a 8 jours, en conférence de presse, ici même, répondant à une question d'Europe 1, Karim Benzema dit pour la première fois en public « Merci Didier ». Est-ce que ça vous a touché ?
Vous l'avez poussé apparemment à ce qu'il dise ça. Non, mais il l'a fait naturellement. Mais il n'y a pas besoin. Je n'ai pas besoin. À un moment, bon, on ne va pas refaire l'histoire parce que vous aimez bien ça. Ouais. Je ne sais pas combien de fois on m'a posé la question « Mais est-ce que vous attendez des excuses publiques, machin ?» J'attendais rien. Après, le plus important... Bon, malheureusement, vous ne saurez pas. Ou avec le temps, peut-être un petit peu, quelques brides, mais c'est la discussion qu'on a eue. Après, je comprends qu'à l'extérieur, on peut se demander, oui, mais comment ça se passe avec le groupe ? C'est un non-événement, ça se passe naturellement, de par ce qu'il fait, ce qu'il est, et par rapport aux autres joueurs qui le connaissent. Il est dans un groupe qui a bien fonctionné, qui a ses habitudes. Et si j'arrive à une décision qui est celle-là, c'est que pour moi, il n'y a pas le moindre souci ou problème, quoi.
Est-ce que, à votre tour, vous avez envie, vous aussi, de lui dire merci de n'avoir jamais renoncé à l'équipe de France au fil des années ?
C'est sa force, mais je ne le découvre pas là. Évidemment, avec 5 ans, je ne vais pas dire qu'il a changé. Chaque personne évolue. Il a toujours été passionné par le football. Et de mon côté aussi, vous pourrez le noter, que lui, il n'est pas renoncé, c'est une chose. Moi, à aucun moment, j'ai pris une position radicale, même s'il y en a qui l'ont prise peut-être pour moi ou qui ont interprété, j'ai jamais dit qu'il n'était pas sélectionnable. J'aurais pu, mais je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. Il sait très bien comment me remercier de la meilleure des façons, remercier entre guillemets. Il n'y a qu'une vérité, c'est celle du terrain. Donc, il prend forcément médiatiquement beaucoup de place aujourd'hui, mais il y a d'autres joueurs, j'ai d'autres options. Mais je considère aujourd'hui qu'avec lui, l'équipe de France est censée être plus forte dans sa globalité.
Encore deux questions, dont une concerne un joueur qui est souvent formidable avec le maillot de l'équipe de France, qui a été génial, intouchable en Ligue des Champions avec Chelsea, c'est N'Golo Kanté. Si vous avez, Didier Deschamps, le bonheur avec l'équipe de France d'aller loin à l'Euro, voire de le remporter, est-ce que vous estimez qu'à ce moment-là, il méritera le Ballon d'Or ?
Je vais rester factuel. Dans l'historique, ce trophée-là est un trophée individuel qui est attribué quasi systématiquement à un joueur offensif.
Mais c'est ça le problème.
Ben, c'est le problème.
Pourquoi ?
Ben,
c'est pas juste.
Ben, c'est les critères. Après, c'est arrivé qu'il y ait des joueurs, je me rappelle.
Oui, Cannavaro. Hein.
Cannavaro, plus avant, Mathias Sammer, sans aller à... Ouais. Et ça peut arriver. C'est l'année, en général, où il y a les joueurs offensifs qui sont moins... Mais c'est comme ça, les critères, ils sont ce qu'ils sont.
Ça serait un beau signe pour le foot.
Oui, mais bon...
Pour ce que ça représente en termes d'esprit collectif.
Oui, bon, connaissant Engie, je pense que d'être trop mis en avant, c'est parce qu'il aime, donc il aime bien sa tranquillité. Mais le petit bonhomme, comme je l'appelle, c'est quelqu'un qui est important pour nous, pour son club, mais pour nous. Et après, lui, il n'a pas besoin. C'est pas quelqu'un qui cherche à se mettre en avant. La lumière, il aime bien sa discrétion, sa tranquillité. Mais sur ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il sera capable de faire, oui, il peut être. Mais les critères ne sont pas forcément ceux-là.
Dernière question, Didier, pour les Français plus largement. Demain soir, il y a le match contre la Bulgarie. Pour la première fois depuis longtemps, il y aura du public au stade. Et notamment des soignants qu'on va récompenser un petit peu symboliquement. Est-ce que c'est une date que vous attendez aussi pour ça ?
Oui, ben, c'est ce que j'ai dit à certains joueurs et à mon staff à Nice, parce qu'on a vu avant, dans la préparation, la ferveur qu'il y avait et la frustration. J'imagine tous les jeunes qui étaient là aux abords de l'hôtel, au stade, ils ne peuvent pas rentrer... Et d'avoir ce stade de Nice qui est magnifique, vide, ben là, même s'il ne va pas être très rempli, hein, on a une petite jauge.
5 000 spectateurs.
Je ne sais plus combien il fait, 78.
80 000 quasiment.
Ouais. Mais avoir un semblant de quelque chose, parce que le foot, c'est ça aussi. Après, à Munich, on aura une jauge un peu plus importante. Bon, à Budapest, c'est 100%. Donc, c'est ça, le foot, c'est partagé. Là, c'est pas le clin d'œil, on fait pas ça pour qu'on en parle. Évidemment que s'il y a des personnes qui... Elles ont toujours été essentielles, mais le personnel médical, depuis ce qu'on vit, depuis plus d'un an...
C'est l'occasion de leur rendre
toujours,
hommage
sur
Europe 1 ce matin.
Oui, et ça sera une partie d'entre eux, mais on a toujours eu besoin d'eux parce qu'ils sauvent des vies. Nous, on peut donner du plaisir, faire oublier les problèmes du quotidien. Eux, ils sauvent des vies et ils auront encore à en sauver. Et il y a de la fatigue et tout ça. Donc oui, on les a mis en lumière. La situation sanitaire les a mis en lumière. Et comme si les années avant, ils n'étaient pas aussi importants. Ils étaient aussi importants, mais de par la situation sanitaire que l'on vit, certains d'entre eux seront là, auront le privilège d'être au Stade de France.
France-Bulgarie, on y sera bien sûr avec Europe 1. Didier Deschamps,
merci
beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite un... un magnifique Euro avec l'équipe de France.
C'est gentil.
Et on vous dit à très bientôt sur l'antenne.
À très bientôt.
Voilà pour cet entretien enregistré avec Jean-François Pérez, le chef du service des sports d'Europe 1, qu'on retrouvera tout à l'heure pour le journal de l'Euro, votre nouveau rendez-vous à 8h30 pour ne rien rater de ces championnats d'Europe. Le compte à rebours est lancé, le journal de l'Euro, jusqu'à la finale le 11 juillet. Ce sera chaque matin. Il est 8h10.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Et à suivre l'édito politique avec Nicolas Bétou. On s'arrête sur les déclarations tendance complotiste de Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite sur Europe.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
7h52 sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Sébastien.
Directeur de la rédaction du journal L'Opinion. Votre édito politique après cette déclaration plutôt troublante de Jean-Luc Mélenchon qui s'attend, dit-il, à un grave incident dans la dernière semaine avant la présidentielle. On va l'entendre.
Ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile.
C'est écrit d'avance, dit Jean-Luc Mélenchon. Nicolas, cette thèse assez douteuse a provoqué un tollé dans la classe politique.
Mais avec Jean-Luc Mélenchon, la première question qu'il faut se poser lorsqu'on entend ou qu'on lit une de ses déclarations, c'est a-t-il vraiment voulu dire ça ou s'est-il, une fois de plus, laissé emporter par son tempérament ? On se souvient du fameux « La République, c'est moi » qu'il avait éructé une séquence de perte de contrôle qui avait gravement nuit à sa crédibilité. Bon, cette fois, en réalité, l'important n'était pas tant le fond de ce qu'il disait, mais la forme.
Et hier, ses prédictions sur un grave incident ou même un meurtre ?
Ben là, c'est différent. Ses déclarations sont voulues, tellement voulues que, après le tollé qu'il a provoqué, il a passé la soirée d'hier à se justifier. En vain d'ailleurs, parce que cette fois, ce n'était pas les nerfs qui avaient lâché, mais quelque chose de plus grave, le sens du réel qui lui échappait. Hier, le candidat de la France insoumise à la présidentielle de 2022 a rejoint le camp assez inquiétant des complotistes.
Sauf que lui s'en défend beaucoup.
Ben oui, mais ses propos sont on ne peut plus clairs. Il annonce qu'on va inventer une guerre civile. Inventer, donc créer toute pièce, fabriquer, provoquer. Qui ? Le système, ce machin mystérieux qui tire les ficelles. Et pourquoi ? Pour, je le cite à nouveau, pour montrer du doigt les musulmans. Voilà, dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, le meurtrier Mohamed Merah qui a tué des enfants juifs devant leur école était en réalité manipulé pour peser sur la présidentielle de 2012. C'est le complot, celui des puissants contre les faibles, contre les minorités, contre les musulmans, là où la France insoumise pense recruter ses électeurs. C'est la main des services qui, en grand secret, dévoie la démocratie pour servir un système. Le délire.
Jean-Luc Mélenchon soutient que les assassins font leur coup au moment qui fait parler d'eux.
Mais ça c'est vrai, en tout cas en ce qui concerne les attentats. Mais en quoi est-ce que vouloir faire parler de son geste terroriste signifie qu'on a été manipulé par le pouvoir et que tout ça est fait pour inventer une guerre civile? Non, peut-être Jean-Luc Mélenchon a-t-il trop fréquenté certains régimes d'Amérique centrale, des démocraties qui ont une fâcheuse tendance à se transformer en dictature, avec des régimes aux mains de dirigeants adeptes des coups tordus, où le recours à l'armée et aux hommes de main est effectivement le lot quotidien, mais en France tout de même. Non, Jean-Luc Mélenchon avait déjà montré qu'il pouvait perdre ses nerfs, voilà qu'il semble entrer dans un monde parallèle, là où les vérités n'ont plus rien à voir avec la réalité. Et la question désormais, c'est lui président, est-ce qu'il serait raisonnable de lui confier le bouton nucléaire ?
L'édito politique signé Nicolas Bétou, le directeur de la rédaction du journal L'Opinion. Merci à vous, à demain. Et à 8h05, il est temps de retrouver Nicolas Canteloup, comme chaque matin, juste avant 8h, Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, à 8h10, Sonia Mabrouk reçoit Michel Barnier, l'ancien négociateur européen pour le Brexit et membre du Conseil stratégique chez les Républicains. Et c'est Nicolas Sarkozy qui vient lui dire un mot.
Oui, bonjour Monsieur Krebs, bonjour à Monsieur Bétou. Eh ben, il est habillé pour l'été, hein, Jean-Luc Mélenchon. Alors Monsieur Krebs, vous avez dit à l'instant que Michel Barnier, c'est un membre du Conseil stratégique des Républicains. Ça, c'est une vraie info sur Europe 1, ça, parce que ça veut dire que les Républicains, ils ont une stratégie. Donc. Et je peux vous dire que de l'extérieur, ben, ça ne se voit pas trop. Hein. Alors, je vais tout vous dire, Sébastien Krebs, parce que c'est votre matinale ce matin. Michel Barnier, je vais vous dire ce que j'en pense. Il y a une partie de moi qu'il aime bien parce qu'il fait homme politique américain. C'est vrai, il a la tête de l'emploi, le cheveu grisonnant, la classe, le costume joli et tout. Et puis il y a une autre partie de moi qui ne peut pas l'encadrer. Parce qu'il me rappelle trop Dominique de Villepin.
Ah. C'est signé Nicolas Canteloup. Mon petit conseil à Michel Barnier qui sera face à Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15. Et Nicolas, on vous retrouve pour la revue de presse à 8h40, bien sûr. À suivre la météo et le journal de 8h, 7h57. 7h59, Laurent Cabrol.
Et avec une journée ensoleillée, comme la semaine qui vient, le soleil sera là, les chaleurs vont se manifester, même il fera très chaud en fin de semaine. Enfin, très chaud, on ira tout proche des 30-32 degrés dans le midi. Cet après-midi, il fera 27 à Marseille, 26 à Paris, 25 à Lyon, Rennes et Lyon, 24 à Lille, 23 à Nice et 21 degrés à Caen. Les brouillards ne se sont pas tous dispersés, il en reste un petit peu à Évreux, Rouen, Le Havre, Calais, Le Touquet, Beauvais, Caen, Abbeville, enfin, quelques-uns, il y en a quand même pas mal. Et puis, dans ces contrées, bien, ils vont s'en aller assez vite, alors que les orages vont se manifester en deuxième partie de journée sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la Bourgogne, l'Auvergne et les Cévennes. Si vous habitez le bassin méditerranéen, du soleil, mais un peu de vent quand même sur le Languedoc-Roussillon, Mistral Tramontane, une prime surtout la Tramontane, le Cers, on l'appelle là-bas. Voilà, les températures actuelles entre 11 et 17 degrés, tout est dit.
Merci Laurent Cabrol.